Radio Okapi. Le journal, présenté par Noëlla Louzitou Kabambi.
Joseph Kabila appelle l'Afrique du Sud et la SADC à soutenir la RDC dans sa quête de stabilité plutôt que de se concentrer uniquement sur une aide militaire. L'ancien président de la République a, dans une tribune publiée hier dimanche dans le journal sud-africain The Sunday Times, souligné l'importance de traiter les causes profondes du conflit en RDC. Deux affrontements samedi entre les FARDC et les combattants Mobondo au village Ntomo et non loin du village Mongata dans la commune rurale de Maluku ici à Kinshasa ont fait au moins 9 morts parmi ces hommes armés. Le général de brigade Moyo Rabi Richard, commandant des opérations sur l'axe Kwamouth-Bagata, demande aux autres Mobondo encore cachés dans les brousses de se rendre aux forces de l'ordre pour favoriser la paix et la coexistence pacifique dans la région. Joseph Kinzo est l'invité de Radio Okapi ce matin. Il a présidé la rencontre des chefs traditionnels, des notables et des leaders des communautés locales à propos de la paix en RDC. Ces chefs coutumiers sont issus des 4 zones linguistiques de la RDC. Bonjour à tous. L'ancien président Joseph Kabila appelle l'Afrique du Sud et la SADC à soutenir la RDC dans sa quête de stabilité plutôt que de se concentrer uniquement sur une aide militaire. Dans une tribune publiée hier dimanche dans le journal sud-africain The Sunday Times, il a souligné l'importance de traiter les causes profondes du conflit. Joseph Kabila a exprimé des préoccupations quant à l'implication de Pretoria dans l'est de la RDC où des troupes sont déployées sous le mandat de la SADC. Jean-Désiré Kanyama.
L'ancien président de la RDC et sénateur à vie, Joseph Kabila, critique l'approche militaire de la SADC, affirmant que la crise actuelle dans le pays est en réalité politique, sociale et institutionnelle, et que la mauvaise gouvernance du régime actuel pourrait entraîner davantage des troubles. Il met en garde contre le risque que l'intervention militaire aggrave la situation déjà précaire dans le pays. Joseph Kabila rejette l'idée que le conflit soit uniquement dû à un affrontement avec le Rwanda ou aux actions du M23, soulignant une crise multidimensionnelle qui nécessite plus que des négociations. Il accuse le pouvoir en place dirigé par Félix Antoine Tshisekedi d'instaurer un régime répressif et de ne pas respecter la Constitution. Kabila appelle en outre l'Afrique du Sud et la SADC à soutenir la RDC dans sa quête de démocratie, de paix et de stabilité, plutôt que de se concentrer uniquement sur une aide militaire. Cette déclaration intervient alors que les tensions continuent de s'intensifier avec la progression de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les demandes de sanctions contre Kigali. Pour Joseph Kabila, le monde observe attentivement pour voir si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera à envoyer des troupes en RDC pour combattre les aspirations du peuple congolais et soutenir un régime qu'il qualifie de tyrannique.
À Kinshasa, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, exprime sa vive préoccupation face à la stigmatisation des populations congolaises parlant le Kiswahili. Dans une note publiée samedi, les évêques catholiques tirent la sonnette d'alarme sur cette ségrégation qui risque d'embraser les conflits intercommunautaires et de renforcer davantage les violences en RDC. Il en appelle à la responsabilité du gouvernement. Le point avec Gisèle Cage.
Les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo dénoncent et condamnent sévèrement la chasse faite aux swahilophones dans la ville-province de Kinshasa et dans certaines autres zones de la RDC. Il est plus que malheureux de voir certains Congolais stigmatiser d'autres compatriotes parce qu'ils parlent le swahili, pourtant l'une de nos 4 langues aux côtés des innombrables langues locales, indique le communiqué de la CENCO publié samedi à Kinshasa. La CENCO s'est dit également indignée de voir certains pasteurs ou gourous exploiter les tribunes de leurs églises et autres cadres de prédication pour tenir des discours incitant à la discrimination, à la haine et à la violence contre d'autres Congolais en raison de leur origine, de leur langue ou de leur morphologie. Elle en appelle à la maturité de toutes les communauté pour ne pas se laisser induire en erreur par ceux qui prêchent la division et la chasse aux compatriotes parlant le swahili. Les évêques recommandent ainsi au gouvernement de prendre ses responsabilités pour assurer la protection de toutes les couches de la population congolaise et garantir la cohésion nationale et le bien vivre ensemble de toutes les races et ethnies en RDC.
Au Nord Kivu, l'ONG Médecins Sans Frontières dit condamner avec la dernière énergie le manque de respect à l'égard de la mission humanitaire par les belligérants qui se battent à travers les différentes localités du territoire de Massissi. Dans un communiqué daté du 22 février, MSF annonce le décès samedi de l'un de ses employés qui avait été blessé par balle en plein exercice de son travail. C'était jeudi dernier lors des violents affrontements entre le 1-23 AFC et les VDP Oazalendo dans les environs immédiats de l'hôpital général de référence de Massissi. Chris Mukand.
Toute la famille Médecins Sans Frontières est aujourd'hui en deuil, mais également en colère face à cette situation. La disparition tragique de Jerry Muhindo Kavati s'inscrit en effet dans un contexte de violence de plus en plus marqué affectant les installations sanitaires et humanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la description de la situation que l'on trouve dans le communiqué de cette organisation humanitaire. Décédé à 49 ans, Jerry a travaillé avec Médecins Sans Frontières durant plus de 10 ans. C'est donc avec un pincement au cœur que l'organisation rappelle aux belligérants que même la guerre a ses règles. Aujourd'hui encore, l'hôpital et la base Médecins Sans Frontières de Massissi Centre sont remplis des familles venues y chercher protection face aux affrontements ainsi que des patients pris en charge, dont un grand nombre de femmes et d'enfants victimes des tirs de ces derniers jours. Sur la seule journée du 20 février, 11 patients ont été pris en charge pour blessures par balle. Tous sont des civils, dont cette femme et enfants, renseigne le communiqué. À noter que Médecins Sans Frontières est présente dans la zone de santé de Massissi depuis 2007. Ses équipes y soutiennent l'hôpital général de référence, le centre de santé, également plusieurs autres centres de santé plus reculés dans la zone.
Au moins 9 combattants Mobondo ont été tués et des armes à feu, des fusils calibre 12 notamment, ont été récupérés par l'armée. Bilan de 2 affrontements samedi entre les FRDC et les combattants Mobondo au village Ntomo dans le territoire de Kwamout et sur la route nationale numéro 17 à 5 km du village Mongata dans la commune rurale de Maluku à Kinshasa. L'armée a également récupéré 60 vaches volées par ces hommes armés dans les fermes situées le long de cette route. Le capitaine Anthony Mwalou Chai, porte-parole de l'opération Ngemba dans la 11e région militaire du Grand Bandundu, a annoncé ces informations au micro d'Irène Bomaluzolo.
Ce samedi, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées. Premièrement, vers 3h du matin, au village Ntomo, situé au sud de la cité de Kwamout, province de Maïndombe. Bilan encore provisoire fait état des 3 miliciens neutralisés. Une arme récupérée de type calibre 12. Deuxième affrontement s'est passé ainsi dans la commune de Maluku, sur la route nationale numéro 17, à 5 km de la cité de Mongata. L'armée congolaise a récupéré le matin de ce samedi 22 février 2025 60 vaches volées par ces miliciens Mobondo qui sèment terreur dans cette zone. Ces vaches ont été volées vendredi 21 février dans quelques fermes de paisibles citoyens situé le long de la RN-17. L'armée congolaise a neutralisé également 6 miliciens Mobondo et récupéré 2 armes à feu de type calibre 12. Les opérations de combat continuent dans l'ensemble de la zone opérationnelle Ngemba pour imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Profitant de cette occasion, le général de brigade Moyo Rabi Richard, commandant des opérations sur l'axe Kwamout-Bagata, appelle les hommes armés Mobondo, encore cachés dans les brousses, à se rendre aux forces de l'ordre avec leurs armes de guerre afin de favoriser la paix et la coexistence pacifique dans la région. Pendant ce temps, dans la province du Maniema, 2 militaires commandos ont été retrouvés morts au centre de formation des commandos du camp Luama. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, qui s'est rendu sur place, un soldat a tiré sur son collègue, le tuant sur le coup avant de se suicider. Lawamo Selemani Taylor a, au nom du gouvernement, exprimé ses regrets pour cette perte et a annoncé que le gouvernement provincial prendrait en charge les obsèques. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Hier la nuit, on a été signalé qu'il y avait un incident au niveau du camp, le centre de formation des commandos. On nous a appris qu'il y a un militaire qui serait ivre, qui a tiré sur son compagnon d'armes et qui en est succombé sur place. Alors l'auteur de ce forfait ayant constaté que son collègue était tombé, il a décidé aussi de se suicider en se tirant sur la tête. Et voilà, aujourd'hui nous avons déjà des corps au niveau du camp ici, ce qui nous fait très mal en cette période où nous comptons, nous fondons tous nos espoirs sur les actions de FRDC. Perdre deux militaires, je crois que ça nous fait consterner. C'est pourquoi l'autorité provinciale demande au commandant centre de pouvoir veiller sur la discipline. Parce qu'il est toujours dit, dans l'armée, la discipline est la mère des armées. Donc, il doit éviter à ce que ces hommes sous sa coupe soient dans une divagation. Et voilà, aujourd'hui, nous venons de perdre deux éléments. Pour nous, pour le chef de l'État, qui est le commandant suprême, c'est une perte énorme. C'est pourquoi il doit discipliner ses hommes pour que la population continue à être rassurée sur les actions contre l'agression que nous sommes en train de vivre au niveau de l'Est.
En Ituri, une délégation conjointe de la MONUSCO et du gouvernement provincial a bouclé samedi une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans le territoire de Djougou après des violences qui avaient fait au moins 60 morts. Certaines recommandations de la mission incluent des rencontres avec les différentes couches de la population pour mettre fin à l'insécurité dans cette région. Il s'agit notamment de la réconciliation entre les communautés locales, du renforcement des troupes des FRDC et de la MONUSCO, ainsi que de la répression des auteurs des crimes. Ces mesures visent à renforcer les mécanismes déjà en place, tels que le système d'alerte, les patrouilles conjointes et le déploiement des bases temporaires des casques bleus dans certains points stratégiques. Bamehu Kassado, de la section des affaires civiles de la MONUSCO et membre de cette délégation mixte, a résumé ses recommandations au micro d'Isaac Raymond.
Ces derniers temps, on avait enregistré une forte montée des violences avec des tueries, incendies des maisons et blessures des civils. Le bureau de la MONUSCO en Ituri a dépêché cette équipe. On voulait comprendre quelle est cette nouvelle dynamique qui vient embrouiller les choses. Parce que de 2000 à 2024, il n'y avait pas de violence interethnique à Fataki. Il y avait même des projets communs. Plusieurs causes qui aboutissent à cette montée des violences. Tous ces actes sont documentés. Un jour ou l'autre, la justice fera son affaire. Il y a un problème économique, le chômage des jeunes, ils ne sont pas occupés, le faible nombre des acteurs de protection du côté gouvernement. Mais de tout cela, nous comptons sur la population locale et sur la réconciliation, sur la cohabitation pacifique. Nous les avons sensibilisés pour la paix et les efforts que la MONUSCO est en train de faire pour protéger les populations contribuent également pour ramener la paix aux environs de Fataki et en territoire de Djougou en général.
Dans le chapitre de la justice, revenons sur la libération le vendredi soir de l'opposant politique Jean-Marc Kabound, président du parti Alliance pour le changement, avec cette mise au point de son avocat. Dans le cadre d'un recours extraordinaire introduit par le biais d'une procédure en révision, la Cour de cassation a rendu son arrêt d'acquittement en faveur du président Jean-Marc Kabound le 21 février. Ainsi, les infractions retenues dans le précédent arrêt de sa condamnation sont effacées et son casier judiciaire devient désormais vierge, a précisé samedi maître Emmanueli Kahaya, qui ne reconnaît pas la grâce présidentielle pour son client. Maître Guilhem Wangi, l'un des avocats et conseiller national du parti de Kabound, déclare de son côté que la libération de Jean-Marc Kabound est un nouveau départ.
Et le président Jean-Marc Kabound, par son courage et son engagement indéfectible, incarne une alternative sérieuse et crédible à cette dérive. Sa libération est un nouveau départ, un appel à l'action pour tout Congolais soucié de l'avenir de notre pays, de notre nation. C'est avec une détermination, une solidarité et une foi à l'avenir que nous réussirons ensemble à surmonter cette crise. Le moment est donc venu pour nous, avec la libération du président Jean-Marc Kabound, pour faire entendre davantage notre voix, revendiquer nos droits, de bâtir un Congo meilleur. Et c'est lui que nous méritons tous, c'est lui que les compatriotes à l'Est méritent. Le changement est possible, le changement commence donc maintenant avec le président Jean-Marc Kabound sur la scène politique.
Parlons à présent de l'éducation formelle. En plus bref, dans le territoire d'Ubundu, les déplacements incessants des enseignants des écoles publiques de l'antenne éducationnelle Ubundu 3 risquent de provoquer une déperdition scolaire. Affirmation d'un administrateur scolaire et notable de la localité de Loa. Selon lui, ces mouvements empêchent les élèves de suivre normalement les cours, car certains restent sans enseignants jusqu'à leur retour. D'autres, en revanche, sont regroupés dans des classes parallèles, créant ainsi un surnombre qui ne permet pas un bon encadrement des élèves par un enseignant.
Actualité internationale.
Les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR et leurs alliés au Soudan ont signé à Nairobi au Kenya une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle selon plusieurs sources, malgré les mises en garde sur un risque de fragmentation de ce pays ravagé par la guerre. Le conflit qui oppose les FSR à l'armée régulière soudanaise depuis près de 2 ans a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes et engendré un désastre humanitaire.
L'invité.
Les chefs traditionnels, les notables et les leaders des communautés locales sont actuellement appelés à jouer un rôle crucial dans la préservation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ils doivent notamment décourager toute forme de division et de discours de haine, tout en œuvrant pour le retour de la paix en RDC. Cet appel a été lancé le samedi 22 février à Kinshasa par une organisation regroupant des chefs coutumiers issus des 4 zones linguistiques de la RDC. Ces derniers ont publié une déclaration pour la paix, la refondation et la réconciliation nationale. Joseph Nkinzo, président de ce congrès et l'invité de ce journal, il en parle dans cette interview accordée à Sifamagou.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame la journaliste. Je viens d'être désigné par les autorités traditionnelles comme président et porte-parole du congrès du peuple pour la paix qui porte une grande initiative, l'initiative de paix, de cohésion nationale. L'objectif, c'est de pouvoir fournir des informations et d'éléments importants au président de la République, à l'EAC, East Africa Community, et à la SADC et toute autre partie prenante à ce conflit actuel portant le désirata du peuple qui estime que le sang a beaucoup coulé dans le pays et il est temps d'appeler un dialogue national où pourraient être représentées toutes les forces sociales et politiques du pays, incluant les groupes armés. Je vois les M23, les Wazalendo et tous ces groupes pour que nous puissions organiser un bon dialogue national inclusif qui pourrait nous aider à refonder l'État et reconstruire le pays pour l'établissement d'une paix durable.
Cette paix durable étant recherchée par tous, vous savez qu'il y a plusieurs dynamiques qui travaillent déjà. Il y a les chefs religieux, il y a des démarches au niveau diplomatique, il y a plusieurs efforts qui sont mis ensemble pour que la paix soit rétablie. Maintenant, les chefs traditionnels et les communautés locales, quel sera leur apport, leur contribution dans cette démarche?
Tout le monde vient d'une communauté tribale. Tout le monde a un chef coutumier dans ses origines. L'article 207 confère aux autorités traditionnelles le rôle de veille sur l'unité nationale et la cohésion sociale. Ils doivent veiller sur cela. On estime qu'il est temps qu'ils jouent leur rôle. Ce n'est plus le moment d'aller casser des ambassades. Ce n'est plus le moment de Boma Mswahili, comme on le voit actuellement à Kinshasa. Il suffit que vous parliez Swahili dans les taxis, dans des endroits publics. Ça crée tout un problème. On a vu des ambassades brûlées, cassées. On voit ce qui se passe à l'Est, le sang qui coule. Quand on voit à Goma où on a perdu plus de 6 000 âmes, et nous pensons qu'il est temps que les armes se taisent, que le peuple congolais s'asseye autour d'une table pour échanger, pour discuter et rentrer dans la profondeur de cette crise qui a perduré depuis une trentaine d'années maintenant.
Vous venez d'évoquer là un point très important. Vous, en tant que dynamique nationale des autorités traditionnelles et leaders communautaires, quelle est votre réaction par rapport à ces appels, ces discours de haine qui s'observent actuellement, ces appels à la division entre les communautés qu'on dénonce depuis un temps ici à Kinshasa? Qu'est-ce que vous dites aux communautés respectives?
Nous décourageons avec la plus grande fermeté ce qui se passe à Kinshasa et dans quelques provinces. Ici, je cite le Katanga, le Kasai, et ici à Kinshasa, où on voit une certaine barbarie se développer, attaquant les gens sur base de leur expression linguistique, ce qui n'est pas du tout admissible. Nous estimons que le Kinois doit continuer à comprendre que la capitale n'appartient pas à une seule tribu, la capitale n'appartient pas à une seule couleur, tant politique, culturelle, linguistique. La capitale doit refléter l'unité nationale. Et c'est inconcevable qu'on puisse brûler quelqu'un, lapider quelqu'un, puisqu'il a parlé une langue différente de la sienne, et particulièrement le Swahili. S'il y a eu une lutte acharnée depuis plus de 30 ans pour que nous puissions garder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, ça c'est une lutte menée par tous les Congolais, mais d'abord, au prix du sang, les peuples de l'Est l'a payé. Pourquoi encore une fois se retrouver martyrisé ici à Kinshasa, qui devrait être le rempart de tous? Nous avons adressé un message fort à la plus haute hiérarchie du pays, sollicitant qu'il puisse s'impliquer pour que la paix revienne à Kinshasa et que tous les citoyens circulent et s'expriment librement. Et nous espérons vivement que cet appel va atteindre toutes les couches sociales afin de rétablir l'unité nationale reflétée à Kinshasa.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph Nkinzo.
Merci beaucoup, Madame.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Billy Landry Betou, un journal présenté par Noëlla Lozito et coordonné par Gisèle Cage. Merci de nous avoir suivis.